la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Vendredi dernier, j'ai assisté à un spectacle, Désenchanté, au Théâtre du Gouvernail. Comme le titre peut le laisser présager, on y parle de Mylène Farmer et de son titre Désenchanté, évocateur pour beaucoup. Charlotte et Valentin, tous deux sur scène, nous embarquent dans la création de cette pièce, réfléchie et pensée à partir d'une phrase. Cet été, avec quelques potes et des centaines d'inconnus, on était en symbiose totale sur ce son. L'idée du groupe, du collectif, de ce qui rassemble. À partir de là, les deux acteurs tirent les ficelles de l'écriture, imitent Mylène sous toutes ses coutures, en viennent aux mains et parlent de féminisme. L'idée, comment faire collectif autour de Mylène, ce personnage énigmatique, mystérieux, dépressif? Qui peut faire collectif et avec qui? Théâtre, chanson, danse, vidéo, on assiste même à un combat entre un homme et une mante religieuse, c'est très impressionnant. Le spectacle mélange les formes pour parler à son public. Ce qui m'a marqué dans ce spectacle, c'est déjà que c'est très drôle, dès les premières minutes, malgré l'éco-anxiété et l'angoisse de l'avenir en toile de fond. On suit des jeunes qui créent une pièce, mais surtout des jeunes qui se bougent, qui veulent faire quelque chose, parce que le dehors leur fait peur et que les puissants de ce monde ont un peu tendance à leur écraser la gueule. L'idée que le collectif, même éphémère, même fragile, même 50 personnes dans une salle de spectacle, c'est déjà une réponse. Dès le début, on sait qu'on va finir par chanter Mylène, mais on ne sait pas trop comment, ni ce qu'on aura vécu entre-temps. Et pourtant, une fois que le moment arrive, on n'imagine rien d'autre. On se lève et on chante avec les autres, et le plafond du théâtre est bas, donc on a la tête dans les projecteurs, mais on s'en fiche parce qu'on est ensemble. En sortant de la pièce, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la jeunesse révoltée à travers le monde, au Maroc, à Madagascar, au Népal. Je me demande souvent, faire du théâtre, aller voir du théâtre, c'est bien, mais est-ce que c'est assez? Moi qui fais des études d'histoire cette année et qui aspire à travailler dans le secteur culturel, je me pose ces mêmes questions. On fait quoi vraiment? Est-ce que parler au micro d'une radio étudiante, ça fait vraiment avancer? Alors aujourd'hui, on va parler de dérèglement climatique et des solutions qu'on peut y apporter. Mais il me paraissait aussi intéressant de voir comment notre génération, désenchantée, se rassemble, crée et reprend Mylène pour essayer de se faire entendre. Alors foncez voir cette pièce, c'est tous les vendredis à 19h au Théâtre du Gouvernail. Ce soir, dans la matinale, on reçoit Daniel Géa qui nous parlera de You Rock Party, une soirée consacrée à la scène rock française ce jeudi au Point Éphémère. Ce sera en deuxième partie d'émission. Et puis pour la première fois à ce micro, Robin nous parlera d'Octobre Rose. Ce sera en toute fin d'émission, alors restez bien avec nous. Fabien nous parlera aussi d'un film entièrement généré par IA, tout un programme. Mais tout de suite, on s'intéresse au climat, envisagé comme multiplicateur de menaces dans les relations internationales. Pour en parler, nous recevons Sophia Cabège, docteur en relations internationales.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Pour commencer cette matinale, nous recevons donc Sophia Cabège, docteur en relations internationales, spécialisée en matière de climat et de sécurité. Vous êtes chercheuse associée à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, dans le cadre du programme Climat, Environnement et Société. Bonsoir Sophia.
Bonsoir.
Et à mes côtés pour mener cette interview, il y a Samia. Salut Samia.
Salut Juliette.
Je te laisse la parole.
Alors, pour poser le contexte, depuis 2022, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a ravivé les tensions en Europe et poussé la France à renforcer son armée. La nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit un budget record de 413,3 milliards d'euros, soit 118 milliards de plus que le précédent plan. Mais au-delà des conflits traditionnels, un autre défi émerge, le changement climatique, désormais considéré comme un enjeu de sécurité pour la défense française. Sophia Cabège, j'aimerais pour commencer qu'on pose un cadre historique. Quand est-ce qu'est apparu pour la première fois le changement climatique comme un enjeu dans la stratégie de l'armée française et comment cet enjeu a-t-il évolué au cours du temps?
Bien, bonjour, bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, pour poser un petit peu le cadre, c'est vrai que depuis le début des années 2000, on observe qu'un nombre d'acteurs de la sécurité dite traditionnelle, donc on pense ici aux forces armées, au ministère de la Défense, à l'OTAN par exemple, ou encore au Conseil de sécurité, qui cadrent, qui qualifient, qui finalement perçoivent le changement climatique comme un enjeu de sécurité. Ce qui est intéressant à souligner ici, c'est qu'en fonction de des acteurs, l'objet à protéger, donc celui qui est menacé, est différent. Ça peut être la sécurité nationale, la capacité opérationnelle des armées, ça peut être également la sécurité internationale, donc protéger l'ordre international, mais pour d'autres, par exemple pour l'Allemagne, peut-être qu'on en parlera, il s'agit en l'occurrence de protéger plutôt les populations, avec une approche centrée plutôt sur la sécurité humaine. Alors pour revenir pour le cas de la France, c'est vrai que depuis le début des années 2000 et en particulier suite à la sortie en 2008 d'un livre blanc, les enjeux environnementaux et notamment les changements climatiques sont envisagés, considérés comme un enjeu de sécurité. Alors ici, ce qui va intéresser le ministère des Armées, et on a vu à partir des années de l'année 2015, notamment de l'adoption de l'accord de Paris, une attention croissante, une volonté finalement d'intégrer le changement climatique dans la réflexion stratégique, dans les éléments doctrinaux. Et ça s'est traduit notamment en 2022 avec la publication d'une stratégie climat et défense qui s'oriente autour de trois principaux points d'action. Le premier, c'est l'atténuation, donc qui reprend finalement les éléments qu'on retrouve également dans le domaine civil. L'idée qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Le second volet, c'est celui de l'adaptation. Et si je vais faire essayer de développer ça, parce que c'est vraiment un enjeu fondamental pour le ministère des Armées, la question de comment on va être en capacité d'opérer dans un monde plus chaud. Donc pour vous donner des exemples très concrets, le réchauffement climatique a des conséquences, notamment en termes d'augmentation des températures, avec des phénomènes de température élevée, les vagues de chaleur que nous connaissons notamment sur nos territoires, qui ont des conséquences directes à la fois sur les équipements et sur le personnel. Sur les équipements, par exemple, on a pu voir des semelles qui fondent au contact d'un sable très chaud. On a pu voir des personnels qui tombent également et qui s'évanouissent dans les hélicoptères qui sont pas assez climatisé. Un dernier exemple encore très concret pour qu'on comprenne vraiment comment, pour les armées, c'est un enjeu, comment ils l'intègrent, c'est les sonars et particulièrement la dissuasion nucléaire. En l'occurrence, le changement climatique a pour effet d'augmenter la température des océans et de ce fait, la dilatation de l'eau fait que le son ne se propage pas de la même manière. Et donc, la dissuasion nucléaire, qui est basée sur l'utilisation de sonars, se trouve aussi affectée. Donc, ce volet très opérationnel, c'est particulièrement par ce prisme-là que vont s'y intéresser les armées. Et puis enfin, un troisième volet, la coopération. C'est notamment sur cela que la France souhaite se positionner. On l'a vu dans le passé avec diverses initiatives internationales. Mais voilà, ces trois volets, l'atténuation, l'adaptation et la coopération en OTAN. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. La diminution des émissions de gaz à effet de serre n'est en aucun cas un objectif stratégique. Par contre, la manière dont ils perçoivent cela, c'est-à-dire la manière dont ils voient comment ils peuvent contribuer finalement aux efforts français pour diminuer l'empreinte carbone, c'est à travers l'idée d'autonomie et de résilience. Pourquoi ? Parce que les forces armées, aujourd'hui, le mix énergétique du ministère de la Défense, c'est près de 70% de pétrole. Okay ? Ce pétrole-là, on doit le faire importer. Et donc, on est vulnérable aux ruptures des chaînes d'approvisionnement. Donc, pour le ministère des Armées, l'idée de pouvoir diversifier les sources d'énergie, d'aller notamment vers de l'électrique ou vers d'autres sources comme des mini-réacteurs nucléaires, c'est un objectif de résilience en opération qui diminue notamment l'exposition à des frappes. On a vu, par exemple, pendant la guerre d'Irak et d'Afghanistan, que la plupart des dommages étaient causés pendant les ravitaillements de pétrole, ceci étant particulièrement visible, notamment sur les images satellitaires, et donc ils étaient ciblés en priorité.
D'accord, je vois. Et comment, justement, cet enjeu a-t-il évolué au cours du temps ?
Évoluer, c'est-à-dire dans la manière dont ils l'ont approché ?
Oui, c'est-à-dire que... Comment je vais dire ça ? C'est-à-dire que cet enjeu justement de sécurité qui est apparu avec la notion justement de changement climatique dans un contexte justement de stratégie dans l'armée française. Et donc justement, comment cet enjeu de sécurité a-t-il évolué à travers le temps dans ce contexte militaire français parce que justement entre 2007 et 2019, on a plusieurs discours à l'ONU qui ont présenté justement le changement climatique comme une menace pour la sécurité nationale et internationale. Et le réchauffement climatique peut en effet justement provoquer des pénuries de ressources, forcer des populations à se déplacer et accentuer la compétition entre États pour l'accès à la terre. Oui, c'est ça, tout à fait, pour l'accès à la terre et à l'eau.
Je me permettrai juste de nuancer cela. En fait, il faut éviter de faire des raccourcis et de créer des chaînes de causalité directes entre le changement climatique et des événements sociaux ou environnementaux. Donc, ce que vous évoquez, par exemple, les phénomènes de migration. En effet, à la suite de catastrophes particulièrement importantes, on peut penser, par exemple, à des cyclones particulièrement violents, à des inondations également particulièrement violentes. On a des phénomènes de déplacement de population. Maintenant, la manière dont on va devenir les prévoir d'une part, mais aussi y répondre. En fait, tout cela va venir finalement complètement déliter cet aspect insécurité. De la même manière, lorsqu'on pense à climat déclencheur de conflits, pas du tout. En fait, les chaînes, elles sont beaucoup plus complexes que ça. Le changement climatique n'est même pas finalement un multiplicateur de menaces. Le changement climatique, c'est un phénomène extrêmement complexe qui va venir dans des contextes très spécifiques alimenter des dynamiques particulières. Pour vous donner un exemple très concret, parce que très souvent, on pense, et les exemples que nous prenons, c'est situé dans les pays dits en développement, mais on a aussi des situations dites conflictuelles, donc des situations de tension avec des conflits de nature et d'intensité différentes, qui émergent aussi sur le territoire français. Pour vous donner deux exemples concrets, on a vu en 2018 ce mouvement des gilets jaunes qui répondaient à la mise en œuvre, à la mise en place d'une politique publique de taxe carbone. Donc cette politique, elle avait quel objectif initialement, tel que proposé, de répondre et de s'inscrire dans les objectifs d'atténuation. Or, elle a provoqué un conflit, un réel conflit social qui s'est retrouvé dans la rue et, comme je le disais, cela parce qu'il y avait des conditions sociales propices à ça. C'est une politique qui était particulièrement injuste, qui ne prenait pas en compte les différences entre les différentes populations et leurs moyens respectifs. Un autre exemple très récent aussi, c'est l'histoire des mégabassines. On a vu sur le territoire français des conflits émerger autour de la ressource en eau et des enjeux de raréfaction et surtout de stress hydrique. Mais en réalité, le changement climatique n'est pas un déclencheur de ce conflit-là. Il interagit en fait avec des conditions préexistantes, des politiques de gestion de l'eau qui ont été pour le coup inefficaces dans leur capacité de pouvoir prévoir en fait cette raréfaction de l'eau qui est prévue depuis très longtemps. Et donc pour revenir à ce que vous disiez, cette question de l'évolution à travers le temps, ce dont vous parlez, donc ces prises de position françaises au Conseil de sécurité des Nations Unies, elles sont préparées par le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est la France qui parle au nom donc du gouvernement français et qui exprime une position sur un sujet dans le cadre d'un débat organisé avec d'autres pays. Ces positions-là, elles ont finalement assez peu évolué à travers le temps et elles démontrent d'une approche un peu fourre-tout, dans la mesure où la France vient qualifier à la fois le changement climatique comme une menace pour la sécurité nationale, pour la sécurité internationale, pour les écosystèmes, tout cela, et ça c'est important de le préciser. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que différents acteurs le qualifient différemment ? Parce qu'en fonction de notre manière de voir le monde, de le comprendre, on va venir réfléchir à des réponses différentes. Et pour le coup, on a pu voir qu'en fonction du qualificatif qu'on va associer au changement climatique comme enjeu de sécurité, on ne propose pas les mêmes types de réponses. On va parfois se concentrer plus sur l'atténuation, donc des émissions, parfois se tourner uniquement sur l'adaptation, donc se détourner complètement des causes pour se concentrer uniquement sur les conséquences. Donc voilà un petit peu pour le panorama français.
D'accord, je vois. Et justement, il y avait aussi ce facteur de cette implication militaire, que ce soit par rapport aux ressources d'eau et de tout ce que vous avez démontré.
Comment ça
Excusez-moi, je voulais dire. Comment je pourrais dire ça En fait, je voulais justement mettre en avant, puisqu'on avait aussi parlé justement de cette application militaire. Et je voulais savoir, justement, il y avait justement un nouveau concept qui est apparu dans ce contexte-là, et c'est la défense durable.
Oui, on voulait vous questionner là-dessus, sur le concept de défense durable, parce que on s'est posé la question, est-ce que c'est pas un concept un peu paradoxal entre la production d'armes et la durabilité? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr. Alors, il faut comprendre en fait que le milieu de la défense et les armées, ils n'évoluent pas de manière isolée en fait. Donc, ils existent dans un système social spécifique et pour le coup, le nôtre, donc notamment en Europe et dans le monde occidental plus largement, et puis on peut même le dire à l'échelle globale, il est caractérisé depuis plusieurs années par une montée en puissance des enjeux climatiques et de l'importance de se saisir des enjeux de durabilité. Et ça, on l'observe ici donc pour le concept de défense durable, mais aussi dans le secteur privé, par exemple, avec des grosses boîtes qui se positionnent, qui annoncent être neutre en CO2 ou neutre climatiquement d'ici 2050, avec des stratégies de développement durable sur des groupes qui sont extrêmement polluants. Donc il y a en effet une sorte de paradoxe. Et je pense que leur implication, elle est liée aussi à une sorte de pression sociétale et une volonté aussi de se positionner comme un acteur responsable, un acteur conscient du monde dans lequel il vit, dans le monde dans lequel il évolue, et des pressions qui vont s'imposer à lui. Comme je le disais en début de mes propos, le changement climatique, pour le ministère des Armées, il est perçu plutôt comme une contrainte. Une contrainte qui va venir affecter la capacité que le ministère et les armées auront à remplir leur mission. Une mission de protection des intérêts français, c'est ainsi que est prédestiné donc le ministère des Armées. Et la notion de défense durable, pour le coup, elle est plus large, elle s'étend au-delà du simple changement climatique, bien que ce soit un phénomène extrêmement complexe, pour intégrer également les enjeux de biodiversité, les enjeux liés à la pollution, les enjeux liés au recyclage, etc. Donc la défense durable, c'est paradoxal. Dans tous les cas, c'est un domaine qui est extrêmement polluant. Pour vous donner un chiffre qui est quand même assez parlant, on estime aujourd'hui que les émissions de carbone associées aux armées à l'échelle globale, ça représente à peu près le 4e pays le plus émetteur. Je ne sais pas si on se rend compte en fait. Donc après les États-Unis, la Chine et l'Inde. Donc en 4e position, on retrouve les émissions combinées de toutes les armées à l'échelle globale. Donc c'est absolument colossal. Donc c'est un secteur qui est extrêmement polluant, ça c'est évident. Pour autant, il me semble intéressant qu'ils se saisissent de ces enjeux-là et que des pressions aussi soient exercées pour qu'ils soient en mesure aussi de contribuer aux efforts de soutenabilité qui sont nécessaires. Mais il est contraint, et par ailleurs, le ministère des Armées a énormément d'exemption à des contraintes légales, à des réglementations qui peuvent être mises en œuvre et mises en place, notamment sur des pollutions qui sont associées à ces missions premières.
Merci beaucoup.
Merci.
On revient après une petite pause, on écoute Everything Goes My Way de Métronomie.
I'll stay here.
C'était Everything Goes My Way de Métronomie. Il est 19h21 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Sophia Cabège, docteure en relations internationales, avec qui nous discutons de la manière dont le réchauffement climatique reconfigure les enjeux de sécurité à l'échelle mondiale. Un de vos domaines de recherche, c'est également la géo-ingénierie. Est-ce que vous pouvez définir ce concept, notamment la géo-ingénierie solaire, et nous expliquer dans quelle mesure elle peut représenter une solution à un niveau d'enjeu climatique?
Oui, alors la géo-ingénierie du climat, en fait, ça se définit comme une série de pratiques et de techniques qui ont pour objectif d'atténuer les effets néfastes, les effets délétères des changements climatiques. Et donc, on distingue deux familles, en fait, de techniques. Les premières, elles vont se concentrer sur les causes du changement climatique, donc la concentration trop élevée de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et en particulier de dioxyde de carbone. La seconde famille, celle sur laquelle on va se concentrer ensuite, elle va se concentrer uniquement sur les conséquences des changements climatiques, les conséquences donc de l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui cause une augmentation de la température moyenne. Donc elle va viser à réduire artificiellement la température moyenne globale. Okay. Est-ce que c'est une solution ou pas? La réponse est non. C'est une solution qui est très dangereuse et c'est une fausse bonne solution. En fait, l'image, il faut imaginer que c'est comme si vous aviez une plaie qui est infectée, que vous mettiez dessus un pansement. Mais en réalité, l'infection n'est absolument pas traitée. Et donc, on comprend très vite dans quelle mesure est-ce que la géo-ingénierie solaire, et là, on va se concentrer sur une technique qui est particulièrement, à laquelle les scientifiques réfléchissent particulièrement et qui est privilégiée pour abaisser la température moyenne globale, c'est l'idée qu'on va venir injecter des particules chimiques dans l'atmosphère pour créer une sorte de voile miroir qui va venir refléter une certaine quantité de rayonnement solaire directement vers l'espace. Et donc cette technologie-là, elle est en cours de développement et elle pose des vraies questions, notamment en raison de ses conséquences. Elle a des implications très concrètes sur les régimes de précipitation. Donc, à quoi ça correspond? On le ressent très, très concrètement dans le vie du quotidien sur des pluies qui sont particulièrement intenses. On le ressent aussi par des phénomènes de sécheresse. Cette technique-là, elle a une échelle d'intervention tellement importante, tellement globale, qu'elle va causer une série de conséquences qui ont des effets dominos également. Et donc, en l'occurrence, c'est souvent présenté comme une réponse technique au changement climatique, une solution technologique. Mais en réalité, la géo-ingénierie solaire, et particulièrement l'idée que je vous décrivais juste avant, donc on va venir injecter ces aérosols dans la haute atmosphère, c'est en fait un instrument politique. C'est un instrument politique qui va permettre de servir des intérêts stratégiques sur la chaîne internationale. Et pour le coup, on a un analogue extrêmement intéressant dans l'histoire, c'est celui du nucléaire et de la dissuasion nucléaire. Ça a constitué une technologie de rupture dans les relations internationales en ce que cette nouvelle technologie a complètement reconfiguré les rapports entre États avec cette idée que si moi je maîtrise cette technologie, attention, je vous dissuade de faire quoi que ce soit parce que je peux littéralement vous détruire. Et donc cette technique-là, elle va théoriquement permettre à un État ou à un acteur, peut-être qu'on en reparlera, ça peut être un acteur privé, de maîtriser la température sur la planète Terre. Et donc, en cela, elle constitue réellement une rupture dans la capacité qu'auront les États à pouvoir asseoir leur puissance sur la scène internationale. Il s'agira ici de plusieurs États qui pourront dire « Moi, je pourrais contrôler la température moyenne globale et décider de temps qu'il fait sur Terre. » Et ça, c'est une reconfiguration totale, en fait, de la manière dont vont se conduire les relations entre États.
Et justement, vous parlez de cette tension, enfin de ce que j'ai compris, c'est que vous parlez de cette tension internationale. Est-ce que vous pensez qu'il ressort pas tout de même un certain rapport de force? C'est-à-dire que vous parliez justement d'acteurs privés, mais il y a aussi les pays occidentaux qui développent cette géo-ingénierie solaire pourrait-elle être vendue aux pays du Sud et par conséquent renforcer les inégalités et, encore une fois, poser cette question de rapport de force entre les États?
Vendue, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'elle pourrait être proposée, adaptée, qu'il y ait une sorte de
comment je pourrais l'expliquer ?
Au sens de les convaincre ?
De les convaincre, mais aussi d'un... au niveau économique aussi d'un...
Alors là, pour ce type de technologie, comme je oui, le disais, c'est une technologie qui est planétaire. Donc, elle concernera tout le monde. Il ne s'agirait pas de vendre un service ou un outil à un pays ou un autre. Okay, la question, c'est qui va la maîtriser et qui sera en mesure de pouvoir la déployer. Il y a d'autres techniques. On pourrait peut-être en parler hein, pour les techniques, par exemple, de captage, de stockage de CO2, donc celles qui s'intéressent aux causes des changements climatiques, où les modalités sont très différentes. Là, celle dont on parle, la géo-ingénierie solaire et particulièrement l'injection d'aérosols dans la stratosphère, ce n'est pas une technologie qu'on va venir vendre aux pays du Sud. C'est une technologie, par contre, qu'on risque d'imposer aux pays du Sud. Et ça, c'est une autre problématique. Et en effet, elle risque énormément de renforcer les inégalités nord-sud, de renforcer également les problématiques de confiance que rencontre aujourd'hui le système de gouvernance internationale sur le climat. Et en ce sens, comme je le disais, c'est une fausse bonne idée, une idée qui est dangereuse pour la gouvernance climatique.
Et justement... Justement, on se rend compte justement de tout l'enjeu dont vous expliquez. Et également, j'aimerais revenir, il y avait une question intéressante que vous aviez posée, c'était qui contrôle justement ces technologies et donc comment organiser leur gouvernance au niveau international, voire supranational, c'est-à-dire en incluant les États, les sociétés civiles et les protections des espaces naturels. Et également, savoir s'il existe aujourd'hui des discussions à l'ONU ou ailleurs pour encadrer ces technologies au niveau mondial.
Alors, la raison pour laquelle j'ai commencé par distinguer ces deux familles-là, donc celles qui s'intéressent aux causes, celles qui s'intéressent et qui agissent sur les conséquences, c'est parce qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes acteurs, on ne va pas avoir les mêmes enjeux et donc pas les mêmes enjeux de gouvernance internationale. Pourquoi encore je distinguais les différentes techniques de géo-ingénierie solaire ? Parce que certaines sont planétaires, celles dont je vous parlais, mais il y en a qui sont locales et il y en a qui sont spatiales, donc qui vont agir dans l'espace extraterrestre, directement dans l'espace. Donc pour ce qui est de la géo-ingénierie solaire, spécifiquement l'idée qu'on va agir sur donc le rayonnement en injectant des particules chimiques, il n'existe aujourd'hui aucun cadre de gouvernance qui... finalement régulent ou interdisent de déployer ce type de technologie. Ce que l'on observe depuis notamment 2018, où il y a eu une première proposition de résolution dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies Environnement, c'est qu'il y a des blocages au sein des Nations Unies avec des désaccords entre États, ne serait-ce que sur l'idée d'établir un état de l'art de la recherche sur le domaine. Donc on est très loin de la construction d'un cadre de gouvernance, on est encore plus loin de la construction d'un cadre de gouvernance contraignant. Je rappelle que l'accord de Paris, qui est aujourd'hui le cadre multilatéral qui régule l'action des États pour répondre au changement climatique, est un accord non contraignant. C'est un accord qui repose sur la confiance entre États d'agir sur un problème global qui concerne tout le monde. Et donc, aujourd'hui, on en est à peu près nulle part, malheureusement, sur la construction de ce cadre-là. Et c'est pour ça qu'on voit émerger d'autres propositions, notamment des propositions de moratoire. C'est-à-dire que des pays ou des organisations scientifiques, des collectifs de scientifiques proposent la signature d'un moratoire qui vienne interdire le déploiement de cette technologie-là, ou bien et où les expérimentations dites à échelle réelle, donc in situ. Aujourd'hui, pour qu'on soit bien conscient en fait d'où nous en sommes dans le développement de ces techniques-là, on est encore à un développement en laboratoire. Donc, c'est-à-dire que des chercheurs vont venir modéliser les effets de cette technologie-là sur le climat global et sur les climats régionaux. Okay. On n'est pas encore à des expérimentations in situ et on n'est pas encore à un déploiement. Par contre, il n'y a rien aujourd'hui qui empêche un acteur de le faire. Et c'est là tout l'enjeu. Et c'est vrai que le scénario le plus probable, c'est un déploiement unilatéral ou un déploiement avec une petite coalition d'États. Il faut aussi être assez réaliste sur l'état du multilatéralisme, notamment sur le changement climatique en ce moment, et l'idée qu'on parviendrait à mettre d'accord à la communauté internationale sur les modalités d'un déploiement d'une telle technologie est très peu probable dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui et vers lequel nous nous dirigeons malheureusement.
Et quand vous dites que c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est vraiment par rapport au conflit géopolitique dans lequel on est actuellement qui, vous pensez, rend difficile le
déploiement. En fait, c'est compliqué pour plusieurs raisons. On a bien sûr une érosion du multilatéralisme avec une polarisation croissante au sein de la communauté internationale qui se cristallise en effet autour de certains conflits. On a aussi une défaillance ou en tout cas une sorte de croyance un petit peu érodée dans le droit international avec le conflit qu'on a vu à Gaza qui a complètement discrédité en fait le droit international et finalement les modalités de respect ou non et que faisons-nous quand le droit international n'est pas respecté. Donc ça s'inscrit dans ce contexte-là et dans un autre aussi, une autre dynamique où on a un rôle croissant des acteurs privés et notamment de ce qu'on appelle la big tech, qui ont une influence croissante sur la politique de manière générale, la manière dont on fait de la politique, et notamment à l'échelle internationale. Donc oui, le contexte fait que la capacité à pouvoir s'accorder ensemble sur des questions qui nous concernent tous. Et là, on parle d'une technologie qui donnerait un avantage stratégique à un acteur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les États ne sont pas égaux dans leur capacité à pouvoir le développer et le déployer. Aujourd'hui, les leaders dans le développement de la géo-ingénierie solaire, ce sont les États-Unis. Donc on va prendre players les plus importants sur la scène internationale, les États-Unis, la Chine, la Russie. La Chine et la Russie, on a très peu d'informations sur leur avancée et si une information en soi, en fait, comme je vous le disais, cette technique, c'est une technologie de rupture dans les relations internationales. Les États-Unis s'y intéressant, publiant et s'y intéressant donc publiquement, il est très peu probable que ses compétiteurs stratégiques ne s'y intéressent pas. Donc on est dans ce contexte-là, en fait. On se dirigerait, à mon sens, plus vers des dynamiques de compétition que de coopération sur le développement de cette technologie-là. Donc c'est pour ça que j'insiste sur une chose, c'est pas une réponse au changement climatique, c'est pas une solution climatique, c'est un instrument politique et stratégique. Et c'est comme ça aussi qu'il faut l'avoir. On n'est pas détaché, on ne peut pas la détacher de cela, en fait. Donc c'est pour ça que mon travail, c'est justement à cette intersection entre la science climatique et les relations internationales, croiser les deux. Elles n'évoluent pas en silo, elles sont connectées. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête.
Merci beaucoup, Sophia Cabej, pour cet entretien.
Merci.
On revient après une petite pause. On écoute Till It's Done de D'Angelo, légende du R&B contemporain décédé hier à l'âge de 51 ans aux suites d'un cancer.
Sons and fathers have
C'était Till It's Done de D'Angelo. Il est 19h37 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Et maintenant, Fabien va nous parler d'un film entièrement généré par IA. De quoi s'agit-il, Fabien ?
Oui, et ben, c'est tout simplement un film, le premier film long métrage d'animation qui est généré par intelligence artificielle, c'est Critters. Donc vous avez sans doute déjà vu des films sur l'intelligence artificielle, mais avez-vous vu ce qu'elle a réalisé ? L'intelligence artificielle investit tous les domaines et le cinéma ne fait pas exception. Vertigo Film présentera à Cannes son premier long métrage d'animation généré par intelligence artificielle, Critters. Le film doit être projeté en marge du Festival de Cannes et met en avant les capacités de l'IA en matière de production cinématographique. Critters ne sera pas le premier long métrage d'animation fabriqué avec de l'IA générative. En 2023, par exemple, le film Imagine d'Anna Apter a conquis le Nikon Film Festival et a remporté le prix de la critique et le prix de la mise en scène. La réalisatrice et scénariste a tout fait seule en utilisant l'outil Midjourney. Sorti l'année dernière, Maharaja Indinaim est un film indien adapté du roman de Kushwant Singh qui en signe également la réalisation. Et mis à part le scénario, l'intégralité du film, images, décors, dialogues et musique, a été générée par intelligence artificielle. Le style visuel présente les caractéristiques typiques de l'intelligence artificielle. Couleurs saturées, arrière-plan flou, personnages irréels et détails imparfaits. Toujours en 2024, le film d'animation Where's the Robot Go, produit par les studios Animation de Tom Patton n'a coûté que 8 000 $ la minute, soit, et il dure 87 minutes au total, ça qui nous fait 6 800 €. Un montant sans précédent pour un long métrage d'animation professionnelle. Avec un budget de moins de 30 millions de dollars, Critters coûte jusqu'à 10 fois moins cher que certains films d'animation classiques. À titre de comparaison, Vice Versa 2, produit par Pixar, a nécessité 200 millions de dollars pour sa réalisation. Un écart qui illustre les gains économiques rendus possibles par l'usage de l'intelligence artificielle. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans le cinéma suscite de nombreux débats, notamment sur le rôle même de l'humain dans la création cinématographique. Des questions cruciales émergent comme celle de l'authenticité ou de la propriété intellectuelle. Qui peut revendiquer être l'auteur d'une scène ou d'un personnage généré par une intelligence artificielle ? Les premiers films d'animation conçus à l'aide de l'intelligence artificielle sont critiqués pour leur faiblesse visuelle et narrative, montrant que l'outil reste dépendant de l'intervention humaine. Maharaja Indinaim provoque un certain malaise, les lèvres des personnages ne sont pas correctement synchronisées et les décors en arrière-plan bougent de manière incohérente, comme on peut le constater dans la bande-annonce. L'intelligence artificielle générative suscite une vive inquiétude chez de nombreux artistes hollywoodiens. En 2023, la Writers Guild of America, c'est un syndicat de scénaristes américains, avait placé cette question au cœur de la grève des scénaristes, suivie par celle du syndicat des acteurs. Ces mouvements ont conduit à un accord visant à encadrer strictement l'usage de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Sur le sujet, James Cameron, réalisateur d'Avatar, a exprimé ses réserves. Je ne crois pas qu'un esprit désincarné qui régurgite que d'autres esprits incarnés ont dit sur la vie, l'amour, la peur, la mortalité, puisse produire quelque chose capable d'émouvoir son public. Et on espère que l'avenir lui donnera raison. La créativité et l'imagination ne peuvent pas être remplacées par une machine. Ça risquerait de tout détruire, d'abaisser la qualité et surtout empêcherait de progresser, d'innover et donc d'avancer et d'évoluer.
Merci Fabien. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir, dans le Zoom, on reçoit Daniel Géa, créateur, organisateur et programmateur de la soirée You Rock Party, qui aura lieu demain soir au Point Éphémère. À mes côtés pour ce Zoom, Hugo, qui va mener cette interview. Salut Hugo.
Salut, ça va ? Bonsoir Daniel.
Enchanté, ravi d'être là.
Enchanté. Avec vous, on parle rock'n'roll ce soir, parce que demain, c'est la You Rock Party au Point Éphémère. Donc c'est à 20h. C'est quoi la You Rock Party ?
Alors, c'est une soirée concert rock, comme son nom l'indique, avec des groupes à l'esthétique rock, mais un peu au sens large. C'est-à-dire qu'il y a tellement de niches dans cette musique, donc il peut y avoir des groupes d'indie rock, de post-punk,
de psyché, même de psyché. Voilà, voilà.
Et donc, c'est des soirées qui existent depuis maintenant, ça va bientôt faire 2 ans. Donc voilà, un peu en mode festival, un plateau assez éclectique. Et avec justement, je mélange volontairement un peu des styles, toujours dans cette énergie rock, mais différents. C'est-à-dire que ce n'est pas des soirées punk ou des soirées pop, ou machin, pour essayer de mélanger aussi les publics, un peu en mode festival.
Oui, on va reparler des différents styles, mais il y a combien d'artistes en tout ?
Alors, il y en a 3 à chaque édition. Donc c'est chacun joue 40-45 minutes, quoi.
D'accord. Et ça dure combien ? 40-45 minutes ? Ça dure toute la soirée ?
Voilà, c'est ça. C'est toute la soirée, ouverture des portes 20h jusqu'à 23h, à la fin du son en tout cas. Mais après, le Point Éphémère est ouvert jusqu'à pas d'heure.
Et ce sont seulement des groupes français. Pourquoi vouloir mettre en avant la scène rock française particulièrement ?
Alors pour l'instant, ça reste effectivement plutôt la scène française. Bah c'était un peu parce qu'elle est très riche, elle est très dense et elle a envie de jouer aussi. Et finalement, il n'y a pas tant d'endroits que ça où jouer, surtout dans ce genre de cadre. Si on peut évidemment trouver des petits bars, voilà, il y a plein d'endroits où on peut jouer, mais c'est quand même dans des conditions assez correctes, voire même très correctes, comme on peut les trouver dans cette salle à Paris, le Point Éphémère. Donc voilà, c'était l'histoire de j'avais vraiment cette envie de mettre en avant cette scène, quoi, faire découvrir tous les groupes qui existent. Quoi.
Et vous avez bien raison, parlons des différents groupes. Il y a Bilbao Kung Fu, c'est un trio qui est originaire de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'eux ?
Alors, je les ai découverts sur scène. Je les ai découverts un peu par hasard sur scène. Donc, c'est un groupe original de Bordeaux qui vient de sortir leur premier album. Parce que le principe souvent de ces soirées, c'est pas des plateaux de tremplin ou découverte. C'est-à-dire, c'est des jeunes groupes inconnus. Enfin, jeunes, pas forcément en termes d'âge, mais c'est des groupes inconnus du grand public. Mais c'est des groupes qui ont déjà entamé une carrière. Donc là, Bilbao Kung Fu, ils avaient déjà fait 2 EP. Donc là, c'est leur premier album. C'est un trio et donc là, c'est un peu leur concert, un peu genre release party parisienne, parce qu'ils en font une après à Bordeaux dans la semaine qui suit.
Et oui, et c'est du rock garage psyché. C'est quoi du rock garage ? C'est un peu du rock crade, c'est ça ou
ouais,
c'est...
voilà. Alors après, moi, c'est eux qui, si je demande chaque fois au groupe okay, comment ils veulent se définir, hein, c'est pas, je veux pas le faire à leur place. Donc oui, là, c'est à noter parce qu'ils chantent en français. Donc moi, j'aime bien aussi. Enfin, moi, j'ai biberonné à la musique anglo-saxonne, mais c'est toujours un plus, je trouve, quand les artistes chantent en français, bah parce que moi, je pense et je rêve en français, donc j'aime bien. Et je trouve très bien fait de leur part. Et j'ai perdu le fil de ta question. Mais
qu'est-ce que c'est que le rock garage ?
Ah oui, bah oui, non, c'est ça. C'est, bah, dans la...
Oui, c'est quand on commence dans le garage avec le.
Ouais,
le
voilà, copain, et c'est ça. C'est censé être un son un peu crade, un peu cracra, voilà, et psyché, parce qu'il y a un petit côté un peu psychédélique dans leur style aussi. Quoi.
Exactement. En plus, on va écouter un titre d'eux après qui s'appelle J'ai brûlé la voiture de mes parents. Ils chantent j'ai brûlé la voiture de mes parents mais je voulais juste les rendre fiers. Ça renvoie un peu à l'image du rock, du rocker qui est un peu un enfant mal aimé et qui chante des paroles de rebelle à contrario de l'oreille établie. Est-ce que c'est toujours un peu le créneau du rock, ça?
Je sais pas. Je pense que évidemment là, dans leur cas, il me semble que c'est quand même assez ironique, second degré.
Mais oui,
je sais pas.
J'imagine.
Si
ouais, j'espère qu'on pas brûlé en tout cas, sinon. Non.
Mais oui. Enfin, en tout cas, dans la symbolique, c'est toujours ça. Après, dans les faits, non. Le rock est, il est mort et vive le rock, quoi. Il existe sous toutes ces 1000 manières depuis les débuts du blues. Enfin, je vais pas refaire l'histoire, mais bon. En tout cas, eux en font partie d'une facette parmi d'autres de ce qu'on peut dire de ce qu'est le rock.
De ce qu'est le rock, oui. Et le rock se nourrit de plein de courants d'ailleurs, ouais. Avec un groupe comme Orla que vous avez aussi programmé. Là, c'est plus doux avec un titre comme Rage qui est presque du slam, certains couplets. Le rock se nourrit et évolue, ça vous le ressentez au quotidien ?
Oui, voilà, exactement. C'est pour ça, c'est ça moi qui me fait assez plaisir, enfin, c'était dans le concept de ces soirées, c'est justement de ne pas rester, comme je le disais, bloqué dans une niche en particulier. Ce qui parfois, parce que moi à la base, ce n'est pas mon métier, mon activité d'être programmateur ou organisateur, vu que je suis musicien à la base, mais je sais qu'au départ, les gens dont c'est le métier, que je connais depuis un moment, m'avaient dit c'est casse-gueule ton truc, fais des soirées à thème, entre guillemets. Quoi.
Ouais.
Alors que, non, justement, bah là, l'exemple typique, Orla, qui ont d'ailleurs eu un début de parcours, parce qu'ils avaient déjà fait un premier EP qui était beaucoup plus pop qu'ils ne le sont maintenant, ils cherchaient un peu leur son. Et
là, ils se sont trouvés finalement un peu.
Ouais, voilà, là, ils ont un son plus électro. Rock, qui se définissent post-punk, mais à la fois ça continue à être chanté, un peu rappé. Ils sont produits en partie d'ailleurs par un gars qui s'appelle Yodelis.
Bon, ah, bah oui, bien sûr, Yodelis, oui. Voilà. Évidemment.
Donc il amène aussi ce son un peu. Mais donc voilà, donc là on est dans un autre registre, et c'est chanté en français aussi, c'est dans un autre registre qui n'a rien à voir avec Bilbao Kung Fu.
Très bien. Et vous êtes aussi guitariste et chanteur, si je ne m'abuse, non ?
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, mon parcours, c'est à la base, et encore maintenant, je suis musicien, guitariste, sideman. Et je suis aussi auteur, compositeur, interprète. C'est-à-dire, je fais des albums sous mon nom, je fais des chansons dans un registre plutôt rock.
Et est-ce qu'on pourra vous écouter un jour au Europe Party ?
Alors, peut-être. Je me suis déjà, d'ailleurs, c'était pas le but au départ, mais je me suis foutu dans la programmation l'année dernière quand même.
Et alors, ça a marché, c'était
ouais,
bien.
Ouais, c'était super. Mais l'idée au départ, c'était pas de. Parce qu'au départ, l'idée, c'est que j'ai la création de ces soirées, c'est que j'ai joué au point éphémère en 2023. Pour aider à remplir, j'ai un peu l'habitude d'organiser aussi, de faire des coplateaux, triplateaux. Et ça, c'était super bien passé, c'était complet. J'avais la possibilité de rejouer dans cette salle la saison suivante, et j'ai proposé aux gens de la salle ce concept de soirée, bon, pas en y jouant à chaque fois, parce que là ça aurait été un peu too much, mais voilà, mais bon, je me suis fait plaisir, je m'y suis mis une fois quand même.
Mais vous avez un groupe
Voilà, ouais, c'est sous mon nom, Daniel Géa, mais je joue plutôt en groupe. Ouais.
Et ben on invite les auditeurs à aller écouter. Pour vous, c'est quoi le rock d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il est multiple, comme on vient de le dire, ou est-ce qu'il y a quand même une spécificité de 2025
C'est ce genre de question qui est hyper difficile à répondre.
C'est un peu relou.
Alors j'ai envie de dire que, parce que tout le monde le dit, je répète un peu ce qui se dit, c'est que ça, mais bon, tout le monde dit en ce moment, enfin tout le monde dans le milieu, le métier de la musique, genre le rock est de retour. Je pense que c'est plus par rapport aux guitares, et aussi, je pense aussi dans l'esthétique, dans l'imagerie, et dans certains trucs pop ou rap, on va trouver des riffs de guitare. Donc on dit ah le
voilà. Mais c'est vrai que le rap se devient de plus en plus rock.
Oui, voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'on dit ça, de la même manière que on avait dit c'est mort après toute la période grunge à la fin des années 90, que c'est revenu début 2000 ou 2010
avec Bébé Brune notamment.
Voilà, les Strokes et en France les Bébé Brune compagnie. Donc là, c'est sûr que c'est pour ça que ça reste. Finalement, c'est une sorte de niche, entre guillemets. Alors que les générations de nos parents et grands-parents, c'était le rock, c'était la musique des jeunes. Maintenant, la musique des jeunes, c'est quand même. Enfin, des jeunes, c'est quand même plutôt le rap. Enfin, même si je trouve que les jeunes, ils écoutent de tout.
Oui, ils écoutent de tout, voilà. Et le rock revient à la mode. Puis selon les pays, en Espagne, c'est plus rock, par exemple.
Ouais, voilà, tout à fait. Donc je ne saurais pas trop répondre qu'est-ce que c'est le rock.
Vous avez très bien répondu.
Mais c'est pour ça que je dis c'est éclectique. C'est pour ça que j'essaie de faire ces soirées éclectiques, parce que c'est riche en tout cas.
Et est-ce que ce concept il pourrait s'exporter dans notre pays ou même ailleurs qu'à Paris ?
Alors c'est un peu l'idée, mon projet ça serait de développer ça en Ile-de-France, en province, dans d'autres villes, à fond, de pouvoir faire des tournées Europe Party avec des groupes éventuellement locaux et tout ça aussi, même si Bilbao Kung Fu sont de Bordeaux, les Orlas sont franciliens. Et j'en profite juste avant de finir. Enfin, c'est peut-être pas fini. Mais
non,
y a
c'est
aussi
pas
le...
fini. C'est pas du tout fini, pardon. Je prends la feuille. Mais...
Il y a le troisième groupe, mais peut-être qu'on allait en venir, qui est programmé.
Pales,
qui est un groupe strasbourgeois. Strasbourg, qui eux en pareil, sont dans un autre registre indus hyper vénère avec une super chanteuse. Donc, eux, dans un truc assez violent sur scène. Donc, rien à voir avec l'esthétique des premiers.
Et oui, Pelch, ils sont revenus avec un nouvel EP qui s'appelle... Non, ça, c'est en 2022, c'était Crush. Non, ça,
ouais, c'est
Crush,
ça, c'est
est sorti en 2025, pardon.
Voilà.
Donc, c'est très punk. Moi, j'ai écouté.
Ouais.
Et il y a une chanteuse qui a une voix qui correspond parfaitement à l'esthétique musicale.
Ouais, ouais.
C'est vraiment incroyable. Donc, très bonne idée de vouloir montrer tous les styles dans une soirée.
Voilà,
je trouve que pour le coup, ça marche. Et c'est assez intéressant.
Ouais, ouais.
Donc on se voit demain, c'est à 20h. Quels sont les prix d'entrée?
Alors, c'est, en pré-vente, c'est 15€ sur, via l'appli Dice, donc jusqu'à demain 19h. je ne sais plus à quelle heure ça ferme, 18 ou 19, Dice. Et après, sur place, c'est 18. Donc pour 18€, vous pouvez voir trois groupes, boire des bières et kiffer au point éphémère à Paris, métro Jaurès.
C'est ça, voilà. 200 quais de Valmy, dans le 10e à Paris. En tout cas, avec des prix accessibles pour voir une scène éclectique. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Et donc, on se voit demain au Europe Party au point éphémère.
Merci encore.
Merci, Daniel, pour votre présence dans le studio de Radio Campus. Donc, demain, 20h, au point éphémère. Comme prévu, on écoute à présent le titre de Bilbao Kung Fu qui sera présent donc à la soirée qui s'intitule « J'ai brûlé la voiture de mes parents ». Et on vous retrouve juste après.
J'ai brûlé la voiture de mes parents, de mes parents. J'ai brûlé la voiture de mes parents, de mes parents.
C'était « J'ai brûlé ma voiture, la voiture de mes parents » de Bilbao Kung Fu. Il est 19h54,
la matinale
de Radio Campus Paris. C'est presque la fin de cette matinale, mais pas tout à fait, puisqu'avec moi en studio, il y a Robin. Bonsoir Robin.
Bonsoir Juliette. Salut.
Tu vas nous parler d'Octobre Rose, c'est bien ça?
Exactement.
On t'écoute.
Alors, si le blanc apaise, que le noir endeuille, que le bleu calme, que le jaune dynamise, ou encore que le rouge passionne, le rose, lui, en octobre, se place sous le signe de tous les saints. Je vous parle des nibards, des lolos, des boobs, des nichons, de ces choses hyper excitantes qui font souvent saliver la plupart d'entre nous et qui, accessoirement, permettent aux femmes de stocker leur lait pour nourrir l'enfant qu'elles ont porté pendant 9 mois. Mais ça, c'est un détail, quoi. Mais trêve de plaisanterie, on est là pour en apprendre plus ensemble, car oui, je m'informe en même temps que vous sur Octobre Rose, parce qu'à part un mois coloré où on se dit « Tiens, c'est marrant, regarde, la tour Eiffel, elle est rose », bah c'est quoi le projet ? Eh bien, pour ceux qui ne le savaient pas et qui ne l'avaient pas encore compris, cette année, chaque année, en octobre, c'est le mois de sensibilisation du cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Selon les organismes de lutte contre le cancer, ce cancer touche chaque année 61 000 femmes et provoque 12 000 décès en France. Pour le dire autrement, aujourd'hui, 165 femmes ont appris qu'elles en étaient touchées. C'était déjà le cas hier et ça sera encore le cas demain. Et maintenant, la grande question qui se pose, c'est comment prévenir de cette maladie ? Eh bien, je vais vous le dire. Je suis le dernier des pros en la matière, évidemment, mais je me suis bien renseigné. Alors, si les filles, vous le savez déjà, les garçons, écoutez bien, ça nous évitera de nous taper la honte la prochaine fois. Déjà, j'ai appris, et j'espère que ça vous rassurera tous, que 9 cancers du sein sur 10 diagnostiqués à un stade précoce peuvent être guéris. Et oui, il existe des gestes simples. Tout d'abord, même si l'âge moyen d'un diagnostic est de 63 ans, vous devez dès 25 ans faire des autopalpations, mesdames, en dehors de la période de menstruation, pour que votre poitrine ait une forme et une taille habituelle, palpez vos seins avec trois doigts dans un sens circulaire et toujours le même. Palpez un sein après l'autre avec la main opposée, de préférence devant un miroir. Appuyez d'abord doucement, puis de plus en plus fort pour chercher une anomalie superficielle et profonde. Cependant, et je ne le savais pas, mais certaines femmes développent couramment des kystes mammaires bénins durant la période de leurs règles, ce qui risque de fausser l'interprétation de l'autopalpation. Mais il y a de quoi rassurer les plus jeunes, car 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Donc pas de panique, au moindre doute, je ne vous apprends rien, c'est simple, on consulte un professionnel de santé, donc médecin, gynéco ou sage-femme. Vous pourrez constater une boule ou une grosseur dans un sein, une aisselle, voire au niveau de la clavicule, restez alerte, une rougeur ou un aspect irrégulier comme une peau d'orange de la peau de vos seins, une rétractation au niveau du mamelon ou un écoulement anormal. Selon le site Amélie, le meilleur moyen de réduire le risque de cancer du sein est d'arrêter de fumer, évidemment, de ne pas consommer plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours, de manger équilibré et varié et de pratiquer une activité physique régulière. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, outre les nombreuses vidéos explicatives sur YouTube, vous pouvez, et je dirais même vous devez, vous renseigner sur tous les innombrables sites prévus pour, comme celui de la Ligue contre le cancer, de l'ARC, Ruban Rose ou encore de Vivre comme avant. N'hésitez surtout pas à donner pour la recherche sur n'importe quel site qui soutiendrait la recherche contre le cancer du sein. Même 1 euro, c'est top et franchement, on pourra dire ce qu'on voudra. Tout le monde est concerné, pas que vous les filles, parce que ce qui fait le bonheur des uns fait aussi le bonheur de nos proches. Et un proche en bonne santé, ça ne saute pas aux yeux comme ça, mais c'est un luxe. Alors mesdames, prenez soin de vous. Et vous messieurs, maintenant que vous en savez plus, n'hésitez pas à en parler à vos femmes, à vos filles, votre copine, votre sœur, votre mère, parce que la santé n'attend pas. En revanche, ce qui s'attend, c'est la grande interview de lundi prochain au sujet des mamans seules atteintes d'un cancer, vécu comme un trouble, comme une double peine invisible, excusez-moi. C'était Robin dans la matinale de 19h et je m'informe en même temps que vous sur Radio Campus Paris.
Merci Robin, c'était très instructif et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à nos invités Sophia Cabège et Daniel Géa. Merci également aux bénévoles qui ont participé à cette matinale, Samia, Hugo, Fabien et Robin. Merci David qui était ce soir à la réalisation. Merci à Jeanne et Aude qui coordonnent la matinale. Restez sur Radio Campus, tout de suite c'est le monde zygomatique en direct jusqu'à 21h. Et surtout retrouvez-nous demain, même lieu, même heure, 19h pétante pour une nouvelle matinale où on vous parlera des femmes en péril et de la démocratie.